Fait que je ne sais pas si vous avez reçu mon courriel ou si vous êtes ici par hasard ce matin, mais d'une manière ou d'une autre, tant mieux. On n'était pas supposé avoir de cours aujourd'hui, parce que j'avais dit la semaine dernière, là, c'est que... Mais bon, sans redire l'histoire, je suis en train de dire, on était supposé être déjà dans... Pas déjà dans l'avion, mais à l'aéroport un matin, mais avec la tempête aux États-Unis, on avait une escale aux États-Unis, dans le fond, c'est qu'ils ont cancellé. Ils ont cancellé le vol, c'est toute une histoire. Toute une histoire, mais c'est ça. Dieu était bon avec nous parce qu'on l'a su. On l'a su quand même. On aurait pu le savoir hier soir, ça n'aurait pas été super le fun. On a fait pas affaire avec une agence de voyage, donc ça m'a demandé quand même plusieurs heures de téléphone, puis de débooker, rebooker, puis checker, puis bon. C'est ça. Je me sentais pas en vacances. J'avais le feeling que je préparais 3-4 jobs d'avance. Hier, j'étais pas... Bon, prier le Seigneur pour qu'on ne se laisse pas contrôler par la frustration. C'était pas super. C'est ça. Yes. J'allais dire d'autres choses, moi je ne parlerai pas d'autres affaires. Non. L'affaire de l'appareil photo. On ne trouvait pas notre appareil photo en même temps. C'est ça. Mais bon. Donc, on est là ce matin. On va faire un cours. On va commencer le déluge ensemble. Puis, on a assez de monde pour faire le cours. C'est pas juste un cours sur le déluge, mais on va quand même commencer à regarder ce qui s'est passé ensemble. Puis on va commencer en priant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour le cours? Merci. Amen. Ce que j'aimerais faire ce matin avec vous en commençant, on va lire le récit du déluge. Je sais que vous l'avez déjà entendu l'histoire, mais souvent c'est bien de le relire avec un œil, peut-être un œil nouveau. C'est que je vais commencer au verset 5. C'est que sans redire tout ce qui s'est dit la semaine dernière, le cours est enregistré, vous irez écouter le cours. Je pense que c'était un des cours, pour moi c'était un des cours importants, juste pour bien comprendre les premiers chapitres de la Genèse, la transition là, entre le chapitre 3 et le déluge. Je pense que vous irez voir ça. Là. Même mon frère Maxime m'a envoyé des bonnes, j'ai pas tout lu, mais m'a envoyé un bon lien. S'il y en a que ça les intéresse, il y a un professeur à l'université que tu avais fréquenté, c'est ça, là, en Caroline Sud. Il a fait toute une étude sur le texte aussi de Genèse 6, puis il a répondu justement à des théologiens ou des exégètes qui avaient proposé l'idée que ça soit des anges qui soient descendus du ciel, puis qui a fait des enfants spéciaux avec les hommes. Là. Puis de ce que j'ai lu à date, ça avait l'air pas mal bien. Puis d'ailleurs, sa position, c'est vraiment l'idée des fils de Dieu, des fils de Seth, puis les filles des hommes étant les filles de la descendance de Caïn. Puis comme je vous ai dit, j'essaie de vous montrer, ça va vraiment dans le contexte de Genèse. Autrement, on amène une idée qui n'est pas vraiment dans le texte, puis ça nous aide moins. Je vais vous avouer que lorsqu'on réalise que la tragédie du chapitre 6, lorsqu'on réalise que la tragédie, c'est le mélange des deux descendances, ça prépare bien le stage, le déluge dans le fond, parce que le déluge est un jugement, c'est comme si le mélange des deux descendances reflète l'apogée du mal, si on veut, sur la terre. Parce qu'on va le voir, là. On arrive avant le déluge. Là. Puis même si je me disais ce matin, dans le fond, je pense pas qu'il y ait jamais eu une époque sur la planète où ça a été aussi pire que ça. Pensez-y, là, c'est comme s'il y avait juste un chrétien sur la planète. Là. Il y avait un être qui marchait, un homme qui marchait avec Dieu, that's it, là, puis ses enfants, puis sa femme, il y a eu une influence sur eux, ils ont suivi l'Éternel aussi, mais c'est comme c'était tout. Là. Le texte est clair, ça c'était tout, puis le reste du monde, c'est pas juste parce qu'il faisait de petites affaires, il était vraiment penché vers la corruption, vers la violence, vers le mal. Ça ne devait pas être super, super. si on avait eu un vidéo de ce qui se passait à l'époque, je pense pas qu'on aurait tout regardé les yeux grands ouverts. Ça devait être assez ordinaire. Assez ordinaire, merci. C'est que sans aller dans les détails, mais c'est clair que la terre était corrompue. Dieu Dieu avait donné la grâce d'avoir son esprit qui opérait. Dieu donne jusqu'à ce jour la grâce d'avoir son esprit qui nous habite, mais qui donc qui est parmi qui est sur la terre, puis qui peut faire son œuvre de conviction de péché, de justice, de jugement, qui à travers nous, etc. À l'époque, les gens étaient pendant des temps, certains prophètes ou des rois étaient habités par l'Esprit de Dieu, mais c'était pas quelque chose qui était permanent comme aujourd'hui, ce qui fait son habitation chez nous. Mais sa présence servait quand même, était une bénédiction pour la race humaine. Puis on l'a vu dans le début du chapitre 6, qu'à un moment donné, Dieu s'est dit, OK, là, il reste 120 ans, voilà ma dernière période de grâce durant laquelle Noé construit l'arche. Puis après ça, j'amène le jugement. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mais son esprit l'a été jusque-là, par exemple. Puis même dans cette période de grâce-là, on l'a vu. On a vu un texte dans 2 Pierre, ou dans 1 Pierre, je crois, où ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, travaillait à travers Noé pour faire la prédication dans le temps qu'il y avait les impies, durant le temps que Noé construisait l'arche. Là. Fait que lisons le texte, puis on va... Je dirais, là, j'essaie de vous mettre dans la peau quand on lit le texte. Mettez-vous dans la peau de Noé, OK? Donc, pour vous mettre dans la peau de Noé, il faut comprendre quelque chose. Le gars, il est seul. Il est seul à part sa famille, OK, rapproché. Il est seul à faire confiance à Dieu, OK? Autour de lui, il n'y a personne, là. Il n'y a personne qui l'appuie là-dedans. C'est non seulement le ridicule, mais c'est de voir autour de lui la violence, la corruption. C'est tout le contraire de ce que lui vit. En plus, Dieu lui dit qu'il va amener une destruction planétaire par le moyen de l'eau. Il a jamais vu de la pluie, le gars. Il a jamais vu de la pluie, mais en plus, il bâtit un bateau qui est l'équivalent d'un gros paquebot océanique moderne parce que Dieu va avoir de la pluie que lui a jamais vu. Là, il faut quand même qu'il trace l'affaire. Puis ça va lui prendre 100 ans à construire ça. Là. 100 ans, ça va être ça, sa vie pendant 100 ans. Se lever le matin avec ses fils, ses belles-filles, sa femme, couper du bois, mettre de la poivre, mettre de l'enduit, bâtir. Je veux dire, c'est 100 ans, le pensez-y. Là. Ça, c'est 100 ans à vivre ça pendant que le reste du monde n'en a rien à foutre. Là, okay? Mais lui, il doit continuer à faire parce qu'il croit que Dieu va faire ce qu'il a dit. Il n'a jamais vu un déluge, il n'a jamais vu de pluie, encore moins un déluge. Puis il a sa petite famille, puis ils font ça. Pensez à ça. Pensez à ce qui a dû se passer pendant qu'il construisait ça, là, en se mettant dans sa peau. Puis après ça, il va passer avec sa famille un an, OK? Même un petit peu plus qu'un an. C'est long, un an, là. Pensez-y, un an dans le bateau, là. Puis c'est pas un bateau qui avait une grosse, c'était pas éclairé super gros, là. Il y avait une fenêtre à peu près d'un pied de haut qui encerclait le périmètre du bateau à l'étage en haut. Ben, t'as pas ouverte tout le temps. D'ailleurs, il y a des moments où il l'ouvre, puis même il y a de la misère à voir comme il faut au travers un point tel qu'il doit envoyer un corbeau puis une colombe pour voir si la terre a séché, tu sais. Fait que t'es un an dans un genre de bateau avec des animaux que tu dois nourrir, puis il y a toute une gestion des déchets. Mais ça aussi, je dis pas qu'il faisait noir, ça doit s'équiper avec la lumière, mais c'est d'être conscient qu'à l'extérieur, ça va pas bien. Là, ça gronde, ça doit bardasser. T'as un an à vivre ça. Là. Puis là, t'es en train de faire ce que Dieu t'a dit. Tu prends soin d'animaux, de ta famille, parce que Dieu veut te sauver, toi et ta famille. Puis même, il y a des bouts où ce que Dieu, dans sa grâce, il amène un vent pour apaiser la mer parce que probablement que l'arche, elle devait balloter pas mal malgré sa grosseur. Fait que t'imagines, t'es dans le bateau, là. Un matin, j'imaginais, là, moi, j'aurais freaké, là, un an à vivre là-dedans puis à se faire brasser. Je comprends que Dieu a dû prendre soin d'eux. Ça n'avait pas brassé un point tel que là, le poulailler se ramassait tout croche en dedans, là, mais là, bon. Pensez à la foi de cet homme-là. Pensez à la grâce de Dieu envers nous, envers la race humaine, en lisant le texte. On va lire le texte, on va y revenir après. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. L'autre point en lisant que je vais vous remarquer, peut-être que vous n'êtes jamais posé la question, une des grosses objections contre le déluge qu'il y a eu dans l'histoire même de la pensée chrétienne, c'est que le déluge a été local, qui n'aurait pas été planétaire. On va lire le texte, puis essayer de, juste en lisant le texte, de réaliser si ça fait vraiment du sens bibliquement que le déluge aurait été local, OK? Ça a été une grosse théorie, là. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Le gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit, l'arche aura 300 coudées de longueur, ça c'est environ 450 pieds. Oui, 50 coudées de largeur, à peu près 75 pieds de large, c'est ça. Et 30 coudées de hauteur, à peu près 45 pieds de haut. Tu feras l'arche une ouverture d'une coudée à peu près d'un pied, plus ou moins un pied et demi, le disposer tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté, tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel, a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle, un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile du sol viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi sept couples de tous les bêtes purs, mâles et femelles, un couple des bêtes qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans sept jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé agit en tout point comme l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses trois belles-filles, entrèrent dans l'arche. Avec tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis Dieu ferma la porte, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées, environ 7 mètres, si je ne me trompe pas. Là. 11 pieds. Ouais, je pense que je me suis trompé. En tout cas, dans mes notes, j'ai environ 7 mètres ici. En tout cas. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains, tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre, ils furent effacés de la terre, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il avait eu le temps assez pour qu'un arbuste d'olivier pousse. Il prit encore patience et puis 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. J'espère qu'elle est partie avec sa femelle ou son mâle, en tout cas. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche. Il regarda et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme, ses belles-filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui rampe sur la terre selon leur genre, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Donc, pour répondre à ceux qui avaient la question, pourquoi il y avait 7 couples, les deux autres, parce qu'il y en avait 6 couples qui allaient passer au bistouri. Et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » On arrête ça là. Donc, voilà le récit. À chaque fois que je leur lis, des fois, c'est ça. À chaque fois que je leur lis, on repense à des nouvelles affaires. C'est des fois, c'est des histoires qu'on a entendues étant jeune, puis on a des images là, qui viennent soit de films qu'on a vus. Des fois, c'est bien de relire, puis de se poser les questions, d'essayer de se mettre un peu dans la peau de ce qui a dû se passer. J'imagine en lisant le texte déjà, est-ce que honnêtement, vraiment ça vaut même la peine de jaser, de dire que bibliquement ça pourrait se défendre que le déluge était local, que ça s'est juste passé en Mésopotamie là. Honnêtement, là, je veux dire, là, même qu'à un moment donné, t'as l'impression que l'auteur se répète un petit peu. Là, si on a compris l'idée. Là. Arrête de le dire que c'est tous les animaux puis c'est toute la chair qui était. Mais c'est ça le point. C'est gros ce qui s'est passé. C'est gros. Puis jusqu'à ce jour. S'il y a quelque chose que ça peut servir, c'est comme on se rappelle de ça, donc on peut se rappeler du jugement du péché, mais comme je vous ai dit, on peut se rappeler aussi d'autant plus de la grâce de Dieu, parce qu'on est encore là aujourd'hui en tant que race humaine. Et Dieu nous a même donné, on n'a pas lu jusque-là, mais il nous a même donné un signe pour se rappeler de son alliance avec nous, comme quoi plus jamais il va redétruire la terre avec l'eau. Quel est le signe avec l'arc-en-ciel. Il a dit à Noé, lorsque le ciel va se couvrir, là, il dit même comment que l'arc-en-ciel se forme. Là, je vois en avant de moi. C'est que, oui, évidemment, il y a eu les idées que le déluge a été local. C'est toujours encore une idée qui est née à un moment donné. C'est toujours dans l'espoir d'harmoniser le récit biblique avec les données scientifiques, parce que les données scientifiques... Dans la pensée évolutive ou la pensée de l'histoire de la Terre, il n'y a pas place pour cette catastrophe-là. T'sais. Mais en même temps, on a plein d'indices qu'il y a eu un déluge, pas non seulement au niveau, comme on va le voir, au niveau physique, là, on a des indices physiques, mais même dans les peuples anciens, il y a des récits du déluge. Okay? avec leurs variantes. Là, on s'entend que on a le récit inspiré. Mais il y a des gens qui ont écrit, je veux dire, ça a dû marquer quand même l'imaginaire. Là, on s'entend que Noé avait, disons que les enfants des enfants de Noé, ils ont dû entendre l'histoire plus qu'une fois, tu sais, le soir avant de se coucher. ils ont vécu ça, ils ont passé un an au travers de ça. C'est que, tu sais, ça a dû rester là. Puis après ça, quand les peuples se sont dispersés après la tour de Babel, certainement que c'est un récit qui est resté dans les annales des peuples. Puis on le retrouve dans les récits babyloniens, d'autres récits mésopotamiens, des souvenirs de ça. Le récit est différent, évidemment. Des fois, il y en a qui se sont servis pour dire ça. Vous voyez, dans le fond, que la Bible s'est inspirée de ces récits-là. Là. C'est, dans le fond, le débat, c'est qui s'est inspiré de qui, là, tu sais. L'événement a eu lieu, mais c'est quel texte qui est le vrai, tu sais. Fait que là, tu sais, faudrait tomber dans toutes les datations, lesquelles qui est le texte le plus ancien. Puis même encore là, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est qui... L'Esprit de Dieu a permis à qui d'écrire le texte inspiré? Parce qu'il y a des gens qui ont certainement écrit leur propre version, puis il y a des peuples qui ont vécu avec cette version-là. Mais Dieu a permis que cette version-là, ce soit celle qui soit écrite, peu importe si c'est Moïse qui a compilé. Puis on l'a jusqu'à nous aujourd'hui. Ça pour dire que ça a été pour... l'idée du déluge local, c'était vraiment pour accommoder. Mais dans le texte, bibliquement, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, puis elle est inspirée à 100%, tu peux pas défendre cette idée-là. Ça se défend même pas. Ça se défend si tu y crois pas, OK? Si tu veux, ça se défend. Tu peux argumenter si tu sors de la Bible. Puis même encore là, j'arrive à toi, hein? Les indices du déluge, on n'en a pas juste en Mésopotamie, là, OK? Des indices que, en tout cas... Les indices qu'on avait tout du moins une végétation ou une population animale subtropicale à grandeur de la planète, ça, on en a des indices à grandeur de la planète qu'il y avait de la végétation subtropicale ou un climat subtropical ailleurs que où est-ce qu'il est actuellement. Donc, c'est une idée qu'il y a eu une époque où tout ça ressemblait. Là. OK, c'est que c'est le déluge qui aurait changé ça. Ouais.
Un des gros arguments contre l'eau qui a couvert tout, c'est que les gens vivent avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils disent que ça ne peut pas qu'elle ait couvert l'Everest.
Non, aussi, ouais, ça c'est sûr. Ça aussi, c'est encore une incompréhension. Là. Parce que c'est une incompréhension de ce que le déluge a changé. Le déluge, ça n'a pas été juste, là, j'y vais arriver, ça n'a pas été juste, on prend une hose, là, puis on la met là, puis on laisse juste l'eau monter tranquillement. Puis après un bout de temps, l'eau a dépassé tout. Là, c'est pas ça qui s'est passé. Le déluge a refaçonné entièrement toute la planète. Tout à l'heure, j'ai mis un peu d'emphase en le lisant, mais au verset 13... Non, Dieu dit qu'il va détruire à cause que la terre est pleine de violence. Il dit, je vais donc les détruire avec la terre. Okay? Il y a vraiment une idée ici que la terre elle-même, le sol, la planète, là, va être détruite. Okay? Elle va être toute chambardée. Dans l'hébreu, il y a vraiment une idée à ce niveau-là ici. C'est que si je pourrais regarder quelques arguments en faveur d'un déluge universel. Comme je vous dis, en lisant le texte, c'est assez clair, là. On prend à sortir plein d'autres arguments, mais c'est pratiquement un petit peu ridicule à ce point-là, parce que le texte est clair que toute la terre était corrompue, donc toute la terre allait être tuée, elle allait périr, puis que toutes les montagnes ont été couvertes par l'eau. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, les 7 mètres au-dessus des plus hautes montagnes, je veux dire, là, on a compris l'idée, là, OK? Juste la nécessité d'avoir une arche, là, je veux dire, si ça avait été local, là, écoute, Noé, là, prends tes valises, là, puis déménager, là, faites un petit voyage, je veux dire, au lieu de bâtir de quoi pendant 100 ans, là, tu sais, prenez 6 mois, là, puis aller l'autre bord, là, je veux dire, ça aurait été plus simple, là, au pire, fais-toi un canot, puis traverse l'autre bord. Là, c'est sans, tu sais, bon, ça, juste la nécessité de l'arche, ça fait pas de sens que le déluge aurait été local. Puis tout le texte, même les fois qu'on revient au déluge de Noé dans la Bible, il n'y a vraiment pas d'idée que le déluge était local. Juste le mot utilisé en hébreu. Le mot utilisé en hébreu pour le mot déluge, là, c'est même pas un mot qui revient ailleurs. Si on avait voulu utiliser l'idée d'une inondation locale, il y a d'autres mots en hébreu pour ça. Le mot déluge est vraiment a été choisi pour Noé. C'est vraiment l'événement qui vient avec ce que Noé a vécu. D'autres, je vais vous les donner tant qu'à être, là, vous allez les avoir dans vos notes, là, mais d'autres arguments là, qu'on a dans le texte. D'ailleurs, en passant, si on nivelait la surface du globe aujourd'hui, c'est-à-dire si on notait tous les gros pics là, bien élevés, puis on avait plus ou moins une boule, puis qu'on peut faire une approximation à peu près de comment est-ce qu'il y a de quantité d'eau actuellement dans les océans, dans les caps polaires, là, on serait capable de couvrir la planète d'environ 3 km d'eau de hauteur. Okay? Bon, c'est des estimés tout ça. Là. Si on nivelait la planète, okay, on s'entend. C'est que le potentiel d'avoir de l'eau, il est là, l'eau. Parce qu'on s'entend que l'eau du déluge, depuis l'époque, n'a pas disparu, elle circule encore dans notre cycle hydrologique jusqu'à ce jour-là. Mais on s'entend aussi, c'est pour ça qu'on va y revenir, la planète n'était pas parfaitement sphérique avant le déluge, mais elle n'avait certainement pas le découpage qu'elle a aujourd'hui. Puisque le découpage qu'on a aujourd'hui, entre autres, là, les chaînes de montagnes comme l'Himalaya, etc., c'est des secteurs non habitables de l'être humain. Là. C'est même pas. C'est beau, là. Ça fait des belles photos, tout ça, là, mais je veux dire, c'est même. Ça augmente des énormes secteurs non habitables. Dû qu'à ce qu'il a créé à la création au début, là, c'était habitable partout. Là. C'était beau, c'était lush, c'était partout le même climat. Certainement qu'il y avait des collines et des monts et des trucs comme ça. Je veux dire, encore là, ça vient dans la. Ça vient, on le voit sur la Lune, qu'il y a de la topographie. Là. Ça vient avec le fait que Dieu aime la variété. C'est beau, c'est diversifié. Mais pas un point tel que ça aurait fait en sorte que tu as des méga secteurs de centaines de kilomètres carrés que tu peux pas habiter. OK? Fait que c'est clair que le déluge a changé la surface du globe. Donc, la durée du déluge aussi est en faveur d'un déluge universel. Écoutez, 21 semaines, 5 mois, ce que les eaux ont dominé sur la Terre. 5 mois, OK? Que les eaux ont pas commencé à diminuer encore. Après les 40 jours de pluie, là, ben, les eaux ont grossi tout le reste du temps aussi. Pendant 5 mois de domination, verset 24 dans ce qu'on vient de lire du chapitre 7, et 31 semaines, environ 7 mois que ça a pris pour la diminution des eaux. Donc, 7 mois avant qu'on ait la terre sèche qui permette à Noé de sortir puis de commencer à considérer s'établir et les animaux aussi. Donc, on parle d'un an entier. Là. Bon, c'est pas le cas de la patente. Comme j'ai dit, la grandeur de l'arche, là, vous avez vu les mesures tantôt, là, 450 pieds, 75, 45 de haut. Ça vous donne une idée. 3 étages de haut qui disaient que ça l'avait, c'est à peu près 15 pieds par étage. Donc, écoutez, c'est immense. Là. Il y a des bateaux encore plus gros que ça aujourd'hui, mais c'est certainement un gros bateau. J'avais dans mes notes à quelque part, considérant, mettons, la grosseur de l'arche puis son arrangement en cellules, parce que c'est ça que Dieu avait demandé à Noé. Mettons qu'on prend un animal comme un mouton, là, grosso modo, un animal d'à peu près de cette grosseur-là. Là. On aurait pu à peu près loader 125 000 animaux de la grosseur d'un mouton, mettons. Les gens qui se sont amusés à faire des calculs avec les dimensions de l'arche, puis essayer de s'imaginer qu'est-ce qui aurait été viable. Ça peut nous donner même des idées un petit peu du nombre d'espèces, les espèces selon la définition de Genèse 1, OK? Le genre de nombre d'espèces terrestres et ailées qu'il aurait pu avoir avant le déluge, OK? Ça donne une idée à 125 000. Là, 125 000, ça, c'est les individus. Ça veut dire qu'on a des couples là-dedans, là, c'est que c'est moins que ça. Là. Quand tu divises par deux, on est rendu à 60 quelques mille. Puis là-dedans, il y a des animaux purs aussi qui ont été amenés en plus grosse gang. Noé, il a dû faire tout qu'un sacrifice après. Là. Je ne sais pas combien d'animaux purs qu'il y avait, parce qu'on n'a pas l'indication ce mois-ci, c'est qu'est-ce que Dieu avait déclaré pur et impur au du temps de Noé. Mais c'était une connaissance qui était sue, tout du moins. Mais bon, il a dû faire tout qu'un sacrifice. Je ne pense pas, même, je me demande dans l'histoire d'Israël s'il y a eu quelque chose d'aussi gros que qu'est-ce que Noé a fait en sortant. Je ne pense pas, là, parce que la quantité d'animaux qu'il a dû sacrifier là, one shot, là, ça devait être assez immense. Merci. Puis mettez-vous dans sa peau aussi, le gars qui vient de vivre, il ne va pas juste sacrifier une tourterelle et dire merci à Dieu. Ça fait un an, là, il fait 100 ans. Ben, toute sa vie, il a marché avec l'Éternel, premièrement, dans une génération qui ne marchait pas avec Dieu, et de moins en moins. 100 ans de sa vie après à faire un seul objectif, en obéissant à l'Éternel et construire le bateau. Un an à faire confiance à Dieu que le bateau n'allait pas crasher parce que ça n'allait pas bien dehors. Là, tu sors et tu as été sauvé, toi et ta famille. Tu as été sauvé aussi, Dieu a sauvé la famille à Noé, tu sais, que Dieu a dû avoir une influence sur sa famille. Dieu, ben, les gars, Dieu, tu me demandes de sacrifier, là, on s'attelle. Je ne sais pas combien de jours ça a pris, là, mais bon. Il devait avoir les mains sales à la fin, mettons. Mais de tous les animaux purs, 7 couples. Ça veut dire qu'il y avait 6 couples par animaux purs qui ont été sacrifiés après. Ça veut dire, si on parle de 12 bêtes, par sorte d'animal pur, je ne sais pas comment elle avait. Puis ça, c'est sans compter les oiseaux, parce qu'il y a aussi des oiseaux qui sont purs versus des impurs. Il a sacrifié aussi des oiseaux. C'est que, je veux dire, on parle de, puis je veux dire, je sais pas, là, ça fait pas en 2 secondes, t'as beau avoir une couple de gars pour t'aider, je sais pas si les filles aidaient, là, mais je veux dire, tu sais, c'est bon, en égorgeant, on va de son sang, on le met celui-là, on met le feu, mais on en met un autre, je sais pas, il me semble que ça... À ce soir, on va aller se coucher, les enfants, on en a fait assez. Oui, après le déluge, la permission est donnée. Dieu va la donner au début du chapitre 9. D'ailleurs, en relisant le texte, l'indice qu'on a, c'est que parce que Dieu a dit la nourriture qu'il a dit d'amener, c'était vraiment la nourriture. À mon avis, Dieu fait des références à ce qu'on mange d'habitude, puis ce qu'on mange d'habitude, c'est vraiment la végétation. Je crois même à ce point-là, je pense qu'on a un indice vers lequel je pense pas que la prédation avait encore fait sa place dans la création autant. C'est parce que là, il va y avoir tout ce qui est aujourd'hui prédateur, donc les ancêtres des prédateurs étaient aussi dans l'arche, OK? Puis la bouffe que Noé leur a servie, c'est la même bouffe qu'à tous les animaux et à eux-mêmes. Puis eux-mêmes, la bouffe, ils n'avaient pas le droit de manger de viande encore. Dieu a donné l'autorisation après le déluge. Puis Noé marchait avec Dieu, c'est qu'il obéissait à Dieu. Il mangeait certainement pas d'autre chose que ce que Dieu lui permettait. C'est que l'indice qu'on a, c'est que toute l'année, ça a été de la nourriture de végétation. Puis c'est pour ça qu'on arrive au chapitre 9, puis on l'a, là, la permission de Dieu maintenant de manger de la viande. Puis on a même une inimitié qui se bâtit au chapitre 9. Entre maintenant, là, il y a une crainte qui s'établit entre l'animal et l'être humain, qui n'était peut-être pas autant là avant. Il y avait une relation plus harmonieuse, puis là, on a la crainte qui s'établit, la terreur. Puis à un point tel que les animaux vont tuer aussi les êtres humains, puis Dieu le mentionne au début du chapitre 9, là, que tu peux même redemander le sang à l'animal qui tue. OK? Puis la même chose entre être humain. Là. Il y avait une question, j'ai vu une main, ou est-ce que j'avais pensé avoir vu une main? Donc, je ne sais pas ce que j'étais, là, mais... Oui, je sais où je suis. Oui, sur les montagnes à Rara, oui. En Turquie. En Turquie, oui. Dans le coin, ce que Guy... oui, c'est ça, exactement. Et lui, il avait fait des recherches. Oui, il y a eu plusieurs expéditions qui ont été faites, oui.
Il a pensé longtemps que c'était des restants de l'art.
Oui.
Et il l'a analysé, puis il a dit que d'après lui, c'est pas ça.
C'est sûr qu'il... Ceci étant dit, en passant, les monts Ararat qui sont mentionnés ici, c'est sûr que c'est vraiment les monts Ararat tels qu'ils étaient compris après le déluge, OK? Parce que là, dans l'histoire, l'idée, c'est qu'ils ont atterri sur les monts après le déluge, OK? Puis si, de toute évidence, parce que là, c'est sûr que tu peux avoir plusieurs monts Ararat un peu mais ça semble historiquement être ces monts dans cette région-là, probablement que l'arche aurait atterri, là. Dans la région, on s'entend, là, c'est pas juste une montagne, les monts Ararat, là, c'est comme un groupe de montagnes, là, où est-ce que l'arche aurait été se pluguer là-dedans, je sais pas. Mais oui, ça semblerait là. Je sais que dans ces coins-là, je pense qu'il y a des formations de glaciers, là, les montagnes sont assez hautes, puis il y aurait possibilité même que, considérant la grosseur de la chose, puis le fait que ça a été enduit avec de la poêle, avec de l'enduit, que ça allait, il y a possibilité, surtout dans la glace, qu'il aurait pu avoir conservation là, de parcelles de l'arche jusqu'à ce jour qui pourrait être trouvé. Là. C'est que moi, je trouve pas ça farfelu quand il y a eu des expéditions scientifiques dans les dernières années. Je sais qu'il y en a eu une couple, puis c'est dans un territoire que c'est pas évident, parce que c'est un territoire, même si je pense à la limite de frontières qui sont assez débattues, là, où c'est rough un peu là, entre la Turquie puis la Russie, puis dans ces coins-là, c'est pas des places où ce que tu peux juste aller te promener de même sans avoir des autorisations. Tout. C'est que, bon, à savoir si vraiment après, là, on parle, peut-être, je sais pas, là, on peut parler quand même de 6 à 8 000 ans là, d'histoire, est-ce que ça l'aurait toffé? Mais écoutez, on en trouve encore des mammouths ou des végétaux poignés dans la glace qui datent du déluge. Là, c'est que il aurait pu avoir des morceaux de bois de l'arche. C'est que si jamais vous n'avez rien à faire un jour, ça vous tente d'avoir un objectif dans votre vie puis ramasser de l'argent, mais c'est toujours possible d'aller chercher un bout de l'arche. C'est possible. Oui.
Vous êtes en train de dire que quand Noé et sa famille ont débarqué de l'arche, ils auraient débarqué dans la glace?
Non. Débarqué dans la glace?
Ben,
on va y revenir. Là. Ben là, il y a des glaciers aujourd'hui. Oui, quand ils ont débarqué, là, après le déluge. Je sais pas, là, je me suis jamais questionné quand ils ont débarqué. Là, ils ont dû dépêcher pour marcher nu-pied dans la neige jusqu'à. C'est clair qu'ils n'ont pas dû rester là bien longtemps, parce que là, on va le voir, la situation après le déluge avait changé. Là. Puis en même temps, dans les monts Ararat, là, je veux dire, ils n'étaient peut-être pas sur le pic le plus haut. Je sais pas, là, je sais pas comment c'était à marcher. Là, tu peux. Il faut dire qu'il devait être assez élevé quand même, parce que c'est les premières montagnes qui se sont montrées et ont accosté quelque part. Là. C'est sûr que Dieu a pris soin de tout ça, là, autant qu'il a pris soin de mettre un vent pour apaiser la mer. J'imagine qu'ils n'ont pas envoyé une place où ils risquaient tous de mourir en sortant de l'arche parce que c'était à côté de même. Putain, tu descends par câble, la grosse alpiniste. C'est ça. Finalement, il reste. C'est ça. Il reste juste Sam à la fin avec sa femme. Ils sont tous morts. Excusez-le. Il y a une question. Ah, oui, c'est vrai, c'est enregistré, mais c'est pas grave. Oui, oui, Simon. Oui. Ça fait. Non, non, c'est ça. Ça. Puis la glaciation, c'est quelque chose aussi qui s'est produit durant le déluge, mais qui s'est poursuivi après. Là, on va le voir. Je pense que ça va être le point que je vais essayer de mentionner un peu aujourd'hui. Je pense que on va se concentrer là-dessus pour le reste du cours. J'aimerais ça que vous reteniez un petit peu à quoi a pu ressembler le déluge. On vient de parler du fait que c'était planétaire, là, une couple d'arguments. Là, c'est pour ça que je me suis ramassé à parler du nombre de moutons qui auraient pu fitter dans l'arche. Mais ce que j'aimerais qu'on considère à ce point-ci, c'est qu'est-ce qui a pu se passer. Là? Bon, là, ça va être le côté un peu plus technique de la chose, juste avoir une idée un peu. Là. Dieu dit qu'il va détruire la terre. Tout le monde rentre dans l'arche. Puis après ça, Dieu envoie de l'eau, de la pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Okay? C'est énorme, les 40 jours, 40 nuits de pluie. Je pense pas qu'il y ait eu... Je serais curieux de voir s'il y a vraiment d'autres affaires. J'ai manqué une joke, je pense. je pense pas qu'il y ait eu d'autres événements comme ça, même d'autant de pluie en autant de temps, là, qui a pu se produire après. Le point, c'est comment que Dieu a initié ça. C'était quoi de où est venue cette eau-là? Puis Dieu a initié un processus quelconque pour partir le déluge. Puis ça, je pense que c'est le point souvent qu'on passe rapidement par-dessus. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on comprend ce qui a dû se passer par la suite. Parce que c'est pas juste une hausse à eau que Dieu a envoyé sur la planète là, pendant 150 jours ou 40 jours. Verset 11 du chapitre 7. Donc, au moment où Dieu décide d'envoyer le déluge, en ce jour-là, c'est important, là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. C'est que juste ça ici, avec tout ce qu'on connaît au niveau des phénomènes naturels, juste ça ici, on a une idée de ce qui s'est passé par la suite. On l'a vu dans Genèse 1. Vous vous rappelez qu'on a parlé là, que l'esprit se mouvait à la surface de l'abîme. Le mot abîme, c'est dans l'hébreu, ça fait référence à de l'eau. Là. Mais c'est de l'eau, c'est toutes les eaux souterraines qui devaient se trouver avant le déluge. On a parlé déjà comment, vu qu'il n'y avait pas la pluie à l'époque, il n'y avait pas la condensation, les nuages, le système hydrologique était différent. Probablement que l'eau, parce que l'eau, il y avait des fleuves et tout, l'eau devait beaucoup plus circuler de façon où est-ce qu'il y avait de l'eau souterraine qui, par pression, à cause de la chaleur du centre de la Terre, pouvait sortir par des canaux, des systèmes de canaux souterrains, puis alimenter les fleuves, les rivières, etc. Puis bon, ça retombait peut-être par percolation au travers le sable. Puis, tu sais, il y avait un cycle qui fonctionnait beaucoup plus souterrain. Mais ça devait être très, très développé. Il devait avoir énormément d'eau en dessous de la terre. C'est qu'on dit le grand abîme, là, on fait vraiment référence à tout qu'un système complexe et interconnecté d'eau souterraine. OK? Dieu a initié quelque chose pour que cette eau-là sorte de là, puis qu'elle s'en vienne à la surface, OK? Donc, celle-là n'est pas venue sous forme de pluie. Elle est venue sous forme de... On va y revenir, là. Elle est venue... Bon, littéralement, là, si tu fais sortir de l'eau du sol de même aujourd'hui, là, ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de faire des mouvements tectoniques, des tremblements de terre, puis des éruptions volcaniques. C'est ça qui se produit. Quand que de l'eau ou d'autres gaz comme ça qui va sortir, c'est faut de la fissuration quelconque de la croûte terrestre. Puis quand ça se produit, on a tout ça ensemble. Aujourd'hui, là, on regarde sur la planète tous les endroits où il y a des activités volcaniques, souvent correspondent à des endroits où il y a beaucoup d'activités sésmiques, beaucoup de tremblements de terre. T'sais, la cordillère des Andes, tu sais, vous avez déjà peut-être vu ça à l'école, là, vous avez des secteurs au niveau planétaire qui sont plus... Il y a plus de troubles de ce style-là. Souvent, ça correspond aussi à des places où ce que la croûte, il y a des fissures, des séparations. Moi, je crois que les plaques tectoniques, c'est quelque chose de plus en plus prouvé. Là, c'est pas une illusion. Vraiment, la croûte terrestre, c'est quelque chose qui stagne pas, qui a des mouvements, puis sont le frottement entre les trucs va causer des séismes. Puis après ça va causer la sortie de ce qui traîne en dessous, entre autres le magma, etc. Dieu, en permettant ça à ce moment-là, il permet, il faut comprendre, toutes les sources du grand abîme. Ça, c'est la grandeur de la planète au complet. Puis de l'eau, il n'y avait pas juste une couple de petits geysers. Là. Il a dû sortir de l'eau accompagnée de roches volcaniques, de magma. Là. C'est clair, ça doit être accompagné de ça, accompagné de séismes assez impressionnants. Puis si ça se produit dans l'océan, dans les océans primitifs, mais ça, c'est accompagné de tsunamis. de raz-de-marée. Puis si ça se produit à côté des places où tu as le sédiment puis de la boue, mais tu as des transports de boue assez impressionnants. Là. On parle pas juste gros comme la salle ici, on parle de kilomètres et de centaines de kilomètres par moment. Le Yellowstone National Park aux États-Unis, là, sur des centaines de kilomètres carrés, c'est de la roche magmatique volcanique qui est là, là. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour qu'elle se rende là, c'est qu'il y a eu une éruption puis elle s'est déposée là. C'est que là, c'est pas un petit volcan qui a, ou une petite fissure que, à cet endroit-là. Ça, c'est une place. Vous regarderez aujourd'hui, d'ailleurs, quand on fait des cours de géologie, énormément des formations qu'on a sont d'origine volcanique. Des fois, c'est juste comme une tétine. Ça a sorti comme les montagnes qui disent dans ces coins-ci, tu sais. Puis ça a fait une bosse. Il y a des fois, carrément, ça a sorti puis ça a dû faire énormément de terrain volcanique, si on veut. Il y a d'autres places que les montagnes se sont formées carrément avec le clash de croûte terrestre lors des mouvements. Là. C'est dans le style des Himalayas que ça rentre, ça l'écrase puis ça monte de même en pic. Là. D'ailleurs, on a un psaume qui parle du fait que durant le déluge, il y a eu la création des vallées et des montagnes. Une façon poétique de le dire. On y reviendra à un autre moment donné. Ça a été initié du moment où Dieu a dit les sources du grand abîme jaillissent. Okay? Mais ça, c'est la grandeur de la planète. C'est que ça, ce point-là, c'est le point qui fait là, que le déluge a dû être une catastrophe. Ça veut dire que c'était pas juste de la pluie, parce que là, l'autre point, je vais combiner les deux en même temps. L'autre point, c'est que la couche d'eau prédiluvienne, de vapor blanket là, en anglais, là, probablement qu'elle était sous forme de vapeur, elle a condensé, elle a tombé en pluie. Les écluses des cieux qui se sont ouvertes font certainement référence à cette couche d'eau-là qu'on a vue dans Genèse 1, qui n'est plus là aujourd'hui parce qu'elle a été utilisée à ce moment-là. C'est que la pluie, les 40 jours, 40 nuits de pluie là, sont venues de ça. Ça fait en sorte que Draché n'a plu à Sio pendant 40 jours, 40 nuits. Mais pendant qu'il pleuvait sur la terre, par exemple, ça brassait en motadi. Je ne sais pas si je peux dire motadi, Danny. J'ai de l'air là, du petit gars qui ne peut pas dire des affaires, là, mais bon. Excusez-moi, ça a dû brasser sur la planète. Il faut essayer de s'imaginer, là, la boule devait, je pense que de l'espace était visible, OK? Juste les éruptions volcaniques, les mouvements de raz-de-marée, tu devais voir, mettons, on arrive dans l'espace, on aurait dû voir les gros mouvements d'eau qui allaient se fouérer quelque part, puis là, les montagnes qui montent. Puis là, là-dedans aussi, l'autre affaire que j'ai pas amenée, c'est que, un volcan, c'est une chose. Quand il y a eu l'éruption du Mont Sainte-Hélène aux États-Unis, dans je sais pas quelle année, là, dans le 20e siècle, ils ont enregistré une baisse de la température au thermomètre, OK, sur une grande région parce que la cendre volcanique était envoyée dans l'atmosphère. Ça se répand puis ça obstrue les rayons du soleil, OK, à un point tel que ça l'affecte le thermomètre, là. C'est gros, là, c'est un volcan, là, OK. Imaginez-vous qu'à l'échelle de la planète, là, c'était pas juste des petits volcans, c'est des éruptions volcaniques magmatiques là, débiles, là, qui est débile mental. Là. C'est que de la cendre volcanique, il devait en avoir un méchant paquet. Là. Ça devait être débile. Je pense pas que Noé ouvrait la fenêtre pour se faire bronzer au soleil. Là. Je suis même pas sûr qu'on devait le voir souvent. En science, on appelle ça des hivers nucléaires. Okay? C'est comme si tu vis un hiver nucléaire. Je crois qu'à ce moment-là, c'est certainement ça qui a été aussi la cause de la glaciation. De la glaciation qu'un grand L qu'il y a eu dans l'histoire de notre planète, parce qu'il y en a eu certainement une. On a les indices de ça, qu'il y avait certainement de la glace qui couvrait même jusqu'à assez creux dans le centre des États-Unis. Ça veut dire que les capotes polaires étaient assez étendues jusqu'à loin, là, par endroit, tout du moins. On a des indices qu'il y a eu de la glaciation. Puis certainement que le déluge, il a dû avoir un hiver nucléaire annuel, je sais pas exactement, mais c'est clair que la météo, c'est clair que par endroit, tout du moins, la température a dû baisser à un point tel qu'on a une glaciation assez forte. À la fin du déluge, la situation, elle devait être différente même d'aujourd'hui. Il devait avoir beaucoup plus de glace qu'il y en a aujourd'hui répandue, qu'il y a dû fondre avec le temps, une fois que tout s'est placé, là. Une fois que les cendres volcaniques se sont replacées, l'atmosphère s'est stabilisée après tous ces mouvements-là. Mais certainement qu'il y a eu une époque de glaciation durant l'année du déluge, subséquemment au déluge. Et après un bout de temps, où ça se retire. C'est qu'au début, là, c'est pas vrai que là, tout le monde a pu, tu sais, de toute façon, on s'entend, c'est juste des coupes qui sont sorties, là, se sont pas comme reproduits de même, ont rempli la terre en une semaine, là, qui ont eu le temps de se pogner des petits spots, là, mais c'était pas tout accessible encore, là, tu sais. On sait ça. Ils ont dû brûler large dans le fond, on l'a pu le retrouver. C'était tout en train de grelotter sur le bord de l'air. Alors, non, mais dans le fond, c'est pas large, il y a l'hôtel, il y a l'eau, c'est les offrandes.
C'est ça,
c'est ça tu parlais. Dans le fond, c'était même pas, c'est ça. Le gars, c'est ça, le gars. Il était même pas reconnaissant, il était gelé. Non, mais... Bon. Mais bon, le point, c'est que c'est tout ça pour dire qu'on oublie que le déluge était un jugement, que c'était une catastrophe. Écoutez, si on a autant de fossiles aujourd'hui, là, les fossiles, là, j'arrive à toi Jean-Pierre, après, les fossiles sont la plus grande preuve du déluge, OK? Le fait que les fossiles, qu'il y en a la grandeur de la planète, c'est la plus grande preuve qu'on a visuelle aujourd'hui du déluge universel. Parce qu'un fossile, là, ça se tu formes pas un fossile avec, tu sais, un poisson meurt puis qui tombe dans le fond de l'océan ou une baleine, ça arrive, là, tu sais. Elle peut pas rester là longtemps parce qu'il y a des scavengers, les... en français, c'est scavengers. En tout cas, les charognards, les bactéries, etc., la décomposition en contact avec l'oxygène, tous ces phénomènes physiques-là et naturels font en sorte que les animaux décomposent puis tu ne retrouves plus rien à la fin, OK? Pour que tu aies un fossile, il faut vraiment que tu aies été coupé de l'oxygène rapidement, puis du même coup, si tu es coupé de l'oxygène, tu coupes l'accès à toutes les bibittes qui pourraient te bouffer, là. Mais donc, il faut avoir, idéalement, les meilleurs cas pour ça, c'est de la sédimentation rapide. C'est qu'un dépôt de bouette, admettons, t'es là, puis je te ramasse un raz-de-marée dans la face, puis t'es pogné là. C'est que tous les sédiments empêchent l'oxygène d'être en contact avec toi, puis aussi les animaux, tu sais. Puis on en trouve partout des fossiles, OK? Puis on trouve pas juste des fossiles d'animaux, genre, qui paisiblement, c'est sur une chaise, ils mouraient, là. C'est souvent dans des situations tout croches, tout déformées. Souvent, on trouve des cimetières de fossiles, OK, à travers le monde, des gens de... C'est comme s'il y avait eu un tourbillon, puis un mishmash d'animaux puis de végétaux tout pété ensemble, puis ça a fossilisé dans un endroit. T'sais. Même des fois, des animaux... Et puis ça, ces affaires-là, tu trouves ça dans des coins que c'est même pas tropical, puis c'est des espèces tropicales qui ont fossilisé là. T'sais. Tout est croche. Des fois, tu vas trouver même des arbres fossilisés en travers de plusieurs strates. Ça va carrément contre l'idée que les strates se sont déposées avec des millions d'années, puis la fossilisation s'est faite... Je veux dire, ça traverse les strates, là, bon... Évidemment, ils vont expliquer que, bon, probablement que géologiquement, il y a l'arbre, whatever, là, vont patiner pour trouver ça. Mais il y a plein... les indices qu'on a, c'est catastrophique tout le temps. C'est des morts catastrophiques, c'est des ramassis catastrophiques. Puis pour la fossilisation, il faut que ça soit catastrophique, il faut que ce soit rapide. Puis ça, c'est tout en faveur du déluge. C'est pas un système uniformitarisme où est-ce que les choses, tranquillement, ça se dépose, ça prend des millions d'années qui vont nous donner ce qu'on voit aujourd'hui comme indice naturel, OK? Maintenant, c'est pour ça qu'en science, les théories sont s'ajustées dans les dernières années, les dernières décennies. On parle souvent d'évolution qui est ponctuée, c'est-à-dire par moment, c'est comme qu'on a des clashs, on a des périodes où il y a des catastrophes ou des changements rapides sur la planète, ça favorise l'évolution. Là, les animaux évoluent rapidement là. Puis aussi, ça l'explique des extinctions de masse de certaines espèces parce qu'il y a eu sûrement... Ils doivent à un moment donné admettre qu'il y a eu sûrement des catastrophes périodiques durant l'histoire de l'humanité parce qu'on a trop d'indices de ça, autant dans le règne animal que dans la nature. C'est les scientifiques se rallient plus à dire non, l'histoire de notre planète en est peut-être pas une d'évolution graduelle, mais beaucoup plus avec des boosts puis des catastrophes. Là, on se rapproche du récit biblique. Le récit biblique n'en parle pas de 18 catastrophes, il y en a deux, OK? J'appelle toujours la création une catastrophe, là, parce que, comme je l'ai dit au début, pour quelqu'un qui pense en termes évolutionnaires, la création, c'est comme boum, c'est comme une catastrophe. On vient de changer, là, on vient de créer de quoi. T'sais. Puis après ça, on a le déluge qui prend ce qui a été créé, puis c'est comme de la pâte à modeler, on te rechiffonne tout ça, puis on recommence à neuf. Là. C'est carrément ça qui s'est passé. Oui, Jean-Pierre.
Est-ce qu'il y a une initiale de déluge? Ce serait une grosse météorite qui aurait frappé la Terre. On voit il y a des traces des cratères. Ça aurait peut-être tout sortir des eaux souterraines.
Écoute, si c'est ça ici, c'est pas... Whatever, peut-être, là, c'est juste que ça serait étrange, je dirais. Dans le texte, c'est assez détaillé. C'est étrange que Dieu ne l'aurait pas mentionné, que ça aurait été l'outil qu'il aurait utilisé pour faire en sorte que les sources du grand abîme jaillissent. Tout est possible, comme je te dis. C'est que je peux pas être dogmatique là-dessus, c'est juste que je lis le texte, puis le texte est assez détaillé, je trouve. Il donne beaucoup de détails, puis ça serait cool, ça serait bizarre qu'il nous manque comme la... Ça aurait été cool de savoir qu'il y en a, juste à titre informatique, dans le même site du reste, qu'on ait un si gros météorite qui déclenche ça. C'est bon. C'est que, dans le fond, là, on tombe dans un domaine, tu sais, la présence des cratères sur la Terre. Mon feeling, c'est que, je sais pas qu'il n'y en a pas eu, mais je trouve qu'il y a une partie interprétative là-dedans. Il y a de l'interprétation, même dans le cratère de la péninsule du Yucatan. Là, en tout cas, à mon humble avis, à moi, de ce que j'ai pas encore lu à fond là-dessus, mais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interprétations. T'sais, c'est pas parce que c'est pas si évident que ça, à mon humble avis. En tout cas, mais bon, ceci étant dit, ici, peut-être. Mais c'est clair que peu importe ce que Dieu a fait, Dieu a changé quelque chose dans le cours naturel des choses pour initier que les grands abîmes jaillissent, que l'eau des grands abîmes jaillisse. Il y a quoi qu'il a fait, là. Peut-être Dieu a utilisé un phénomène naturel pour faire en sorte que ça pop, là, puis ça sorte, là. Peu importe. Peut-être. C'est peut-être. Puis il n'aurait pas mentionné dans le texte. Peut-être aussi, tu sais, je. Mais ceci étant dit, je ne connais pas assez sur les cratères, puis le fait que c'est fort, qu'on ne peut pas vraiment se interpréter ça autrement, que ce soit vraiment un météorite qui ait frappé la planète. Oui?
Penses-tu que les dinosaures viennent
embarquer là? Bien, c'est sûr qu'ils étaient là. C'est sûr qu'ils étaient là parce que avant le déluge, il n'y avait pas de. La mort était là, mais il n'y avait pas encore cette. Il n'y avait pas cette inimitié-là puis cette crainte entre les hommes et les animaux. On a vu qu'elle a été établie après le déluge. Il n'y avait pas l'aspect aussi que les humains avaient besoin de tuer pour se nourrir, des trucs comme ça. Oui, ils tuaient des animaux qui avaient apprivoisé, le bétail qui apprivoisait pour les sacrifices, dans le fond, peut-être pour la rabie. Mais autrement, tout ce qui était sauvage comme animaux, là, les animaux qui parcouraient la terre, là, selon Genèse 1, les animaux sauvages, dont les dinosaures, faisait le truc, puis il était végétarien aussi en passant, là, comme tout le reste. Là. Donc, oui, on était dans l'arche, puis logiquement aussi, il faut comprendre que le gigantisme était présent avant le déluge fort, fort. Là. Autant les êtres humains, les fossiles qu'on a d'êtres humains, c'est beaucoup des géants, comparé à nous aujourd'hui. La même chose des animaux. Tout à l'heure, Jean-Pierre me parlait qu'il y avait un reportage à la Découverte. C'était des libellules là, de billes, grosses comme la table, des mille pattes, je veux dire, qui font des grosses traces dans le sol, qui sont super gros. Bon, ce mille pattes-là, probablement qu'il était dans l'arche, par la grosseur qu'il y avait. Bon, peu importe, mais ça qu'il y avait de gigantisme. C'est clair que c'est pas mentionné ici, c'est mentionné un couple de chaque espèce. T'as pas besoin de prendre les deux qui ont 300 ans puis qui payent 500 tonnes chacun. Là, tu peux quand même. Logiquement, si Dieu était capable de faire venir les animaux, c'est pas Noé qui a couru après. Les animaux sont venus sous l'ordre de Dieu volontairement en couple à l'arche. Certainement que, tu sais, bon, on avait pas mal de juvéniles, surtout dans les espèces géantes qui ont du loul. L'important, c'est qu'ils étaient capables de se reproduire en sortant de l'arche, là. C'est qu'il a pas fait venir des bébés, là, mais ont des juvéniles, certainement. C'est que tout ça pour dire que c'est clair qu'ils sont là, parce que les dinosaures, on a des indices de leur existence après et durant le déluge. Avec les fossiles, c'est qu'ils étaient là durant le déluge, ils étaient en train de se faire tuer, tu sais. C'est quand, s'ils étaient en train de se faire tuer durant le déluge puis qu'ils ont fossilisé, c'est parce qu'il y en avait dans l'arche, parce que Dieu a dit qu'il voulait préserver toute la vie au complet de la terre. Couche d'eau, là. Ça a affecté, c'est clair, après le déluge, ça a affecté la longévité des humains, des animaux. Ça a certainement affecté aussi le métabolisme au niveau de la performance, la guérison, la capacité de grossir autant. Il faut pas oublier que l'autre élément qui, au début, il y avait ça. Je dis pas qu'ils n'ont pas grossi encore, mais ce qui est devenu limitatif éventuellement, c'était les ressources aussi qui viennent d'être limitées. Parce qu'à un moment donné, plus tu te reproduis, tu as plus de monde, tu te bats plus pour les ressources. Il ne faut pas oublier qu'après le déluge, tu ne peux plus habiter partout. Là, parce que toutes les deux capotes polaires sont plus accessibles. Il y a des animaux qui se sont adaptés, qui sont allés vivre là. Vous regarderez les reportages avec les ours blancs. Tu vois que, je veux dire, il n'y a pas une tonne d'animaux qui sont allés s'installer là-bas parce que c'est rough, la vie là-bas. Puis bon, il y en a qui se sont ramassés là par le hasard des choses après le déluge. Ils se sont ramassés à suivre un certain sentier, puis se sont ramassés là, puis maintenant, se sont ajustés parce que Dieu a créé des animaux, puis les êtres sont capables de s'ajuster dans leur instinct, c'est qu'ils se sont ajustés, puis avec des milliers d'années plus tard, tu as des espèces qui sont super ajustées à ce qu'ils vivent, puis qui se l'ont reproduit dans leur. Mais ben, ça pour dire qu'en plus, ça fait en sorte que même, mettons, tu es un dinosaure, ben, tu as pas mal moins de bouffe, ou tu bats plus pour la bouffe, tu as moins de place pour vivre. Puis en plus, d'un coup, tu commences à manger, tu commences à tuer des humains, puis tu commences à tuer d'autres animaux, ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce que tu penses que les humains vont faire? Tu me tues, tu me sèmes la terreur dans mon village, mais on va se ramasser une couple de gars, mais on va aller digouiller la tribu de dinosaures qui habitent à côté de la porte. T'sais. C'est clair qu'on a des récits de ça. Là, je finis avec ça après, je suis rendu à 10 ans. Là. Mais tu sais, tous les récits là, de héros là, qui s'en vont, on s'en va à la gang, on tue un dragon, ça a aussi une source de qu'est-ce qui a dû se passer. Il a dû avoir quand même, pour la race humaine, une époque où ils ont voulu établir leur autorité sur la terre parce qu'il n'y en avait plus d'autorité. Il y avait une crainte, il y avait une terreur qui s'est déposée entre les animaux puis eux. C'est que, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu chasses extensivement dans ce temps-là, tu te débarrasses. Là. On fait la même affaire aujourd'hui. Là, on se débarrasse des virus, des plus petites bébites, là, mais bon, à l'époque, ils se débarrassaient des grosses bébites. Mais c'est ça. Donc, on finit avec. On termine avec ça. C'est que dans 3 semaines, on va poursuivre.